étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 37e édition de Roman de Gare, j'ai à nouveau le plaisir d'accueillir à la médiathèque du Centre culturel Aragon à Oyonnax la romancière lyonnaise de naissance, indinoise, lozérienne et meurtre. Toise de cœur et francilienne d'adoption, Cécile Baudin, dans le troisième roman, Dur comme fer, est paru le 20 mars 2025 aux éditions Presse de la Cité et dans la collection Terre de France. Cécile, bonsoir.
Bonsoir Michel et bonsoir tout le monde, bonsoir Radio B.
Ta dernière venue dans les studios de Radio B date du jeudi 20 juin 2024 à l'occasion de la parution en brochet le 14 mars 2024 de ton second roman La Constance de la Louve, est sorti en poche le 20 mars 2025 aux éditions 10-18. Une année bien remplie hein, entre les séances dédicaces, les rencontres, les salons, la sortie de ton troisième roman Dur comme fer le 20 mars 2025 aux éditions Presse de la Cité et toujours dans la collection Terre de France et l'écriture de tes prochains romans. As-tu le temps de prendre du temps pour toi?
Selon mon mari, non, pas assez. J'essaye de m'organiser.
Voilà. Mais selon toi?
Oui, bah, c'est du temps pour moi l'écriture, d'une certaine manière. Simplement, c'est du temps que pour moi et effectivement, c'est pas forcément du temps qu'on passe en famille. C'est vrai que quand les week-ends du printemps sont occupés à gauche et à droite, la famille par moment râle un petit peu, mais bon, c'est la vie, hein. C'est comme les gens qui font du sport ou des choses comme ça. Écoute, ça fait partie aussi des passions et il faut trouver un équilibre. Mais comme tout le temps, hein, comme avec le boulot, voilà, il faut trouver un équilibre. Mais je suis en train de le trouver, il n'y a pas de souci.
Bien. Alors à propos de la Constance de la Louve, tu as reçu le 22 mai 2025 à la médiathèque d'Avoine en Indre-et-Loire le prix Polar en chinonnais et tu avais fort à faire hein, puisque les autres nominées, toutes des femmes, étaient de belles références. Oui. Hein, Cécile de Roigny, Amélie Antoine, Anne Persin et Max Monehay. Un prix de plus à ton palmarès. Est-ce qu'il a une saveur particulière ce prix?
Oui, il a une saveur particulière parce que j'ai le sentiment, j'ai l'impression que c'est presque un peu plus difficile de faire connaître un deuxième roman qu'un premier roman. Un premier roman, il y a un effet... un petit peu de curiosité. Il y a des prix qui sont dédiés à des premiers romans. Il y a des curiosités, des articles hein, qui sont dédiés aux premiers romans. En revanche, il n'y a pas vraiment beaucoup de prix du deuxième roman. Et c'est presque... il y a une espèce de trou d'air comme ça, des fois. Surtout que Marc de Fabrique a plutôt très bien marché. Grâce au prix du roman noir historique. Donc c'est vrai qu'il a une saveur particulière pour cette raison-là. Ça fait plaisir qu'un deuxième roman soit aussi remarqué. Je suis très contente aussi de ce prix parce que c'est un prix qui en fait est lié uniquement à des votes de lecteurs. Tu vois, il n'y a pas de jury institutionnel. Pour moi, c'est essentiel. Ça répond au vote de 70 personnes, en l'occurrence des médiathèques et des libraires. Voilà. Et puis, c'est la Lozère. Et je suis contente que la Lozère gagne un petit peu avec moi. Voilà.
Alors, avec cet emploi du temps bien chargé, tu continues à exercer le métier que tu avais avant de te lancer dans l'écriture?
Le métier de DRH, non. Non, là c'est totalement impossible. Hein. C'était difficile il y a deux ans, c'était héroïque l'année dernière. Cette année c'est mort. Hein. Ou alors il faut m'inventer des journées de 40 heures, mais non, j'ai renoncé totalement. Cette fois, définitivement, je fais deux, trois trucs à côté, mais non, mon métier de DRH, je ne peux plus le faire sérieusement.
Tu vas devoir bientôt faire un choix entre l'écriture et ton emploi actuel?
Bah, je ferai ce choix quand je gagnerai de quoi le faire, dis donc Michel, hein, parce qu'en attendant... L'écriture, comme pour beaucoup d'écrivains ou de romanciers, n'est pas forcément si fréquent que ça permette véritablement de vivre de manière sérieuse et anticipée et pérenne. Quoi, voilà. Le jour où ce sera le cas, effectivement, je pourrai tout lâcher. Mais comme ça n'est pas encore le cas, je ne peux pas tout lâcher.
Bien. Alors, nous t'avions quitté donc, le 20 juin 2024 avec l'annonce de ton troisième roman, Dur comme fer. Tu l'as écrit quand, ce roman?
Je l'ai écrit en 2022. En fait, lorsque Presse de la Cité décide de m'éditer, on est fin 2021, mais ils ne vont pouvoir me sortir à leur catalogue qu'en 2023, puisque 2022 pour eux est complet. Donc Marc de Fabrique sortira en 2023 et Constance de la Louve en 24. Et donc l'année 22, je la mets à profit pour écrire le troisième, Dur comme fer, qui est donc sorti 3 ans après son écriture.
Alors après la Lozère et l'Ain, nous voici en Meurthe-et-Moselle. Les deux premiers départements étaient liés à des souvenirs d'enfants et d'adolescentes. Pour le dernier, ce sont des souvenirs de femmes. Les lieux que tu décris n'ont pas la même couleur, la même histoire selon que tu aies 13 ans ou 23 ans.
Ah, c'est une bonne question. Non, ça n'a probablement pas la même couleur. La Lozère et l'Ain, c'est effectivement l'enfance, donc c'est un paysage fantasmé. C'est un paysage un peu onirique, plein de souvenirs d'enfance et avec beaucoup d'affect. Alors que la Lorraine, c'est mon premier job en CDI il y a pile 30 ans. Pile 30 ans cette année, hein, c'était en 95. Et du coup, oui, le regard sur la région et sur l'histoire est probablement plus mature, plus professionnel aussi. Peut-être un petit peu plus historique ou technique ou social. Oui, mais probablement un peu plus sérieux peut-être.
Alors on passe du début du 19e siècle avec la Constance de la Louve au début du 20e siècle avec Dur comme fer. Tu traverses un siècle de révolution et pas uniquement industrielle. Toi qui n'avais pourtant pas une attirance particulière pour cette matière à l'école, à chaque fois tu écris un livre d'histoire.
Mais oui, écoute, je dois me rattraper. J'essaye peut-être d'avoir une bonne note, va savoir. Peut-être 30 ans que j'essaye d'avoir une bonne note en histoire.
Parce que la dernière n'était pas bonne.
Bah écoute, en tout cas, au bac, qui doit être la dernière note, j'ai péniblement atteint 11. Et encore, j'ai ramé hein, pour atteindre...
C'est pas 5.
Non, c'est pas 5. Bon, mais encore une fois, ce que j'aime dans l'histoire, hein, quels que soient les sujets, et ce sera le cas aussi dans Dur comme fer, ce que j'aime dans l'histoire, c'est la vraie vie des vrais gens, à quel point elle a été impactée par les grands événements et par la grande histoire, comment on peut relater ça de manière romanesque et vivante et dynamique, et surtout, comment cette histoire nous parle d'aujourd'hui. Et c'est particulièrement le cas dans Dur comme fer, mais moi ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est comment elle se répète et ce qu'elle nous apprend sur notre époque actuelle.
Alors avec Dur comme fer, paru le 20 mars 2025 aux éditions Presse de la Cité, on est au début du 20e siècle et à cheval sur deux pays, deux cultures. Peux-tu nous raconter, sans trop en dévoiler, l'histoire de ton troisième roman ?
Dur comme fer est un roman en deux parties. Dans la première partie, on va suivre le destin d'un Italien à l'époque des grandes migrations italiennes pour la Lorraine, hein, où beaucoup d'Italiens très pauvres migrent pour travailler notamment dans les mines de fer en Lorraine. C'est l'époque où la France a besoin de beaucoup d'acier. Donc dans cette première partie, on va suivre le destin de cet Italien qui fuit une famille mafieuse et qui vient se cacher en Lorraine parmi les mineurs, qui va prendre goût à la mine, mais à qui il va arriver des tas de mésaventures et on va l'accuser d'un certain nombre de crimes. Dans la deuxième partie, quelques années plus tard, son fils, italien également, débarque au même endroit pour enquêter sur ce qu'il est advenu du père et surtout va essayer de l'innocenter, d'innocenter sa mémoire des crimes dont on l'accuse et il va enquêter à son tour sur ces fameux crimes.
Tu gardais quel souvenir de ton passage en Lorraine ? Quelle image avais-tu d'une sidérurgie qui avait déjà fermé ses hauts fourneaux en 1995 ?
Oui, ça commençait, ça n'avait pas commencé, hein, ça finissait, parce que ça a commencé à fermer bien avant, et notamment 80, dans les années 80, absolument. J'en garde d'abord un très bon souvenir, quand je suis arrivée en Lorraine, c'était vraiment par hasard, c'était le premier job qu'on me proposait, donc j'ai quitté Lyon pour la Lorraine, et à l'époque, tous mes potes m'ont dit « t'es sûre de toi ? Tu y es déjà allée ou ?» Et en fait, j'ai adoré cette terre que j'ai trouvée vraiment passionnante. C'est des gens d'abord très chaleureux, très cultivés. C'est une terre où il est arrivé des tas de choses, où la notion de frontière est très mouvante, la notion de langue est très mouvante aussi. J'ai découvert effectivement à l'époque, j'ai découvert déjà l'amaretto, hein, c'est mes collègues italiens qui m'ont fait découvrir des tas de choses d'origine italienne. Et effectivement, j'étais très surprise à l'époque.
C'est quoi l'amaretto ?
L'amaretto, c'est la liqueur d'amande amère. Italienne.
Ah si, d'accord.
C'est super bon. Enfin, j'ai pas découvert que ça, mais j'ai notamment découvert ça à l'époque, j'avais que 23 ans. Hein. Et donc, tous les collègues avec lesquels je bossais s'appelaient Calderaro, Di Gian Domenico, Carbone, Palmieri. Et je me disais, mais pourquoi tous ces noms italiens ? Que se passe-t-il ? Et c'est comme ça, à l'époque, que j'ai découvert l'histoire de ces grandes migrations italiennes. J'ai trouvé ça super intéressant. Certaines villes sont appelées des petites Italies là-bas, hein, comme Ussigny, Villerue, et le festival du film italien se tient chaque année, Festival International, à Villerue, pour ces raisons. Donc voilà, j'ai aimé cette terre, j'aime l'Italie aussi. J'ai aimé la vision qu'ils ont du travail bien fait, du travail rigoureux, du travail sérieux. C'est des gens solidaires, c'est des gens vraiment très attachants. Donc j'ai beaucoup aimé cette terre et je suis contente de pouvoir la mettre en valeur dans Dur comme fer.
Avec Dur comme fer, on apprend comment se fabrique l'acier et la fonte. C'est donc un roman très instructif. Transmettre le savoir, c'est aussi une de tes envies depuis le début de ton aventure littéraire.
Oui, transmettre le savoir et notamment transmettre le savoir-faire ouvrier, du monde ouvrier, dans ce qu'il a, je trouve, moi, de beau et de magique. Parce que comme à l'époque de Marc de Fabrique, hein, j'ai à cœur de montrer aux gens à quel point les métiers, alors ouvriers au sens large, hein, mais les métiers manuels, sont des métiers magnifiques, sont des métiers qui sont vraiment très évocateurs, qui nécessitent beaucoup d'intelligence, beaucoup d'habileté, qui sont très beaux, qui sont très valorisants. Les gens qui les ont exercés éprouvent beaucoup de fierté. Ce sont des métiers très nobles, des métiers qui ont été un peu dévalorisés, enfin même pas un peu, hein, beaucoup dévalorisés hein, dans les années 80, 90 et même un peu après. Et moi, j'ai à cœur de montrer à quel point c'est passionnant. À chaque fois qu'on se penche sur un métier ouvrier, derrière, il y a des notions passionnantes à comprendre et à connaître. C'est le cas, moi je trouve, hein, c'est le cas de comment on transforme un minerai arraché à la montagne en acier, et par quoi on passe, à quoi ça sert tout ça, les hauts fourneaux, les aciéries, comment ça fonctionne. C'est de l'alchimie, hein, c'est vraiment magique. Et le savoir-faire du fondeur et le savoir-faire du mineur sont des savoir-faire dont on ne mesure pas à quel point ils sont fins et à quel point ils étaient importants, précieux et valorisés à l'époque.
Alors, la révolution industrielle, tu l'as traitée dans Marque de Fabrique avec les tréfileries, les soieries et même les glacières de Silan et une main-d'œuvre française et locale. Avec Dur comme fer, c'est l'arrivée de l'acier avec ses hauts fourneaux et ses mines et ceux de la Lorraine en particulier, et un besoin croissant de main-d'œuvre, tu le disais, que l'on va chercher à l'étranger et en Italie notamment. Nando aurait pu s'appeler Ferdinand et Antonio Antoine. Il y avait aussi de la main-d'œuvre d'origine française ?
Pas suffisamment. D'abord, il n'y en avait pas suffisamment dans l'absolu parce que le besoin était tel. Le nombre de main-d'œuvre nécessaire était tel que de toute façon, les Français de la région n'y auraient pas suffi. On a essayé de faire venir des Belges, des Luxembourgeois d'abord, etc. Et ça n'a absolument pas suffi. Donc c'est pour ça qu'on allait chercher cette main-d'œuvre. Et ensuite, la main-d'œuvre lorraine historique était de culture agricole. Et aller dans la terre, aller sous la terre, lui était très pénible. Autant les Français étaient OK pour aller travailler dans la sidérurgie, les aciéries, les hauts fourneaux, autant ils n'étaient pas du tout OK pour aller dans les mines et aller sous terre. Et là, on était bien contents d'aller chercher des Italiens qui, à l'époque, étaient extrêmement pauvres. Hein. Toute l'Italie du Sud était extrêmement misérable. Et on était bien contents de trouver, à l'époque, cette migration pour aller dans les mines, principalement.
Tes héros auraient pu être français dans ton livre ?
Oui. Mais c'est une bonne question. Je trouvais difficile de parler de cette époque et de cette histoire sans parler des grandes migrations, d'une part. Et d'autre part, ça m'intéressait de rapprocher les grandes migrations de l'époque avec les grandes migrations qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je pensais, par exemple, que les grandes migrations italiennes, c'était passé crème. Tu vois, on adore les Italiens, on s'entend bien, on aime les pizzas. Bon. Et bien, j'ai découvert que pas du tout. C'est pas du tout passé crème. Les chasses à l'ours, les exactions contre eux, ça a été très difficile. En plus, ces migrations ont heurté des conflits sociaux français, syndicaux, j'allais dire intranationaux. Donc ça a vraiment fichu le bazar jusqu'à faire les émeutes de 1905 avec l'armée et la fin qu'on connaît, hein, puisqu'il va y avoir un mort après intervention de l'armée. Et finalement, tout ça a résonné terriblement avec aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant de montrer aussi. Et puis on ne peut pas parler de cette époque et de cette région sans les Italiens. À l'époque, la main-d'œuvre italienne dans certaines villes comme Ussigny et Villerue dont je parle fait 2/3 de la population. C'est énorme. Et c'est 80% des ouvriers peu qualifiés dans les mines. Hein.
Tu as quel rapport avec l'Italie, à part le fait d'y être édité, que ce soit avec la Fabbrica del Destini Invisibili ou Il Silenzio dei Lupi?
Le rapport que j'ai avec l'Italie, j'ai dû être italienne dans une autre vie. Voilà, parce que j'adore tout. J'adore la langue. Je la trouve magnifique, j'adore la cuisine, je trouve que c'est la meilleure après la française, naturellement. Je trouve que tout est beau là-bas, j'essaie d'y aller tous les ans et c'est vraiment un pays que j'adore. Et c'est pour ça que j'étais très contente aussi de commencer dans ce pays. Tu sais, c'est un peu comme quand on commence les Tours de France à l'étranger. Donc j'étais contente de commencer dans ce pays. Je suis ravie d'être traduite en italien, vraiment très contente, très fière. Et je vais participer à mon premier salon en Italie en octobre, normalement. Je vais aller du côté de Milan. Donc non, c'est vrai que c'est un pays que j'aime beaucoup et qui me parle énormément.
Qui as-tu rencontré pour planter le décor, les personnages et leur vie dans cette région sidérurgique, mais aussi en Italie, à Santa Maria del Cedro en particulier?
En Italie, j'ai rencontré personne. Là, j'ai effectivement reconstitué les choses à partir principalement de sources bibliographiques. En revanche, en Lorraine, j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde. Et puis, c'est pas si difficile que ça de travailler sur la Lorraine historique parce que le devoir de mémoire, le travail de mémoire est très important en Lorraine. Beaucoup, beaucoup de gens consacrent du temps et de l'énergie à faire vivre la mémoire des mines et de la sidérurgie. J'ai donc rencontré, par exemple, des associations qui ont filmé et enregistré des témoignages de mineurs avant qu'ils ne disparaissent, hein, les derniers mineurs des années 50-60. Donc ça, c'est une source vraiment très, très intéressante. J'ai récupéré une collection de cartes postales de 1905 d'un ancien syndicaliste incroyable, Donc là, j'avais vraiment toutes les vues de l'année en 200 cartes postales. J'ai rencontré une autre association qui se fait fort de récupérer les archives privées des gens, les bulletins de paye, les photos, enfin tout, pour les préserver. J'ai rencontré des volontaires, des bénévoles qui ont transformé une ancienne mine qui devait être désaffectée en musée. J'ai visité des mines avec eux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui œuvrent pour transmettre cette mémoire, parce qu'effectivement, après les années 80, on a eu de cesse que de tout détruire. Détruire les hauts fourneaux, il n'y en a plus un debout. Les mineurs, les derniers mineurs sont morts, à part deux mines qui se visitent, mais sinon, elles sont de fait plus en activité et tout ça. Donc, c'est vrai qu'ils ont à cœur d'essayer de faire vivre quand même ce patrimoine, bien qu'il ne se voit plus. Et j'ai essayé d'y contribuer en donnant vie à ces gens d'Endure comme fer.
Et l'Italie, alors ?
Ah ben, l'Italie, je ne suis pas allée tout exprès. Alors, dans mon scénario, il y avait cette histoire de mafia. Il y avait cette histoire de mafia au début, et notamment de mafia calabraise. Donc voilà, j'ai placé les débuts de Nando en Calabre.
Alors le parcours de Nando est un peu particulier. Donc pour échapper à l'emprise de son père, membre de la mafia calabraise, il part en Lorraine alors qu'il avait tout pour rester élever des citrons que les rabbins lui enviaient. Pourquoi un éleveur de citrons ? Pourquoi la mafia calabraise ? Et pourquoi un rabbin dans un pays chrétien ?
Alors au départ, je voulais qu'il y ait un contraste fort entre la vie d'avant de Nando, en pleine nature, dans des arbres fruitiers, entre la montagne et la mer, et la mine. Je voulais que le contraste soit saisissant. Donc là, il l'est, voilà. Il l'est pour lui, et il l'est pour le lecteur, en tout cas, je l'espère. Je voulais cet effet de contraste. Pour un certain nombre de raisons que je ne souhaite pas dévoiler là, il se trouve qu'il aime les citrons, il aime leur couleur, et il aime leur odeur. Et j'ai découvert un peu par hasard cette histoire, effectivement, de rabbins qui viennent chercher des cédrats un petit peu spéciaux pour leur cérémonie depuis toujours. Et j'ai trouvé joli, finalement, qu'il y ait ce mélange de culture
et de religion,
et, de religion et d'histoire et de géographie, où on s'aperçoit finalement que les frontières à l'époque sont pas si fixes ou fermes que ça. Il y a beaucoup de mouvements de population, des frontières mouvantes et des gens qui voyagent et qui, à travers les religions ou les frontières, se parlent et communiquent et font du commerce.
Pourquoi la mafia calabraise ?
Oh, parce que ça m'arrangeait. Non, mais parce que les brigands ont bien sûr proliféré plus là où c'était très pauvre.
Et mais
c'était
bien plus pauvre. Ça peut être en Sicile, par exemple.
Oui, ça aurait pu être en Sicile, mais non, je voulais que ce soit en Calabre.
Il y a des beaux citrons aussi.
Oui, mais non. Je voulais la Calabre, je voulais qu'ils puissent passer à pied par Modane. Je voulais essayer de reconstituer ce trajet des migrants à pied. Depuis la Sicile, c'eût été plus compliqué. Donc non, j'ai choisi la Calabre et effectivement des endroits où on fait ces citrons très rares que sont les citrons diamantés.
Nando est italien mais parle aussi notre langue puisque son grand-père était un ancien militaire français. Ça aurait été plus compliqué pour l'histoire qu'il ne parle que l'italien.
Ah bah oui, ça gâchait tout. Parce qu'il va s'intégrer. Oui, il aurait pu l'apprendre. J'ai préféré qu'il sache très vite parler italien parce que c'était quand même beaucoup plus facile de lui faire vivre un certain nombre d'aventures rapidement. Et surtout de le mettre dans une position, c'est ça aussi que je trouvais intéressant, de le mettre dans une position un peu les fesses entre deux chaises. Parce que du coup, il est sollicité par les Italiens, parce qu'il est capable de parler français, de haranguer aussi, voilà, mais il ne veut pas trop se mêler des syndicats italiens. Les Français veulent aussi essayer de le récupérer parce qu'il parle aux Italiens. Cette espèce de double culture incarnée par la langue fait qu'il est sollicité un peu de toutes parts alors que lui ne demande qu'une chose, qu'on le laisse tranquille. Il veut se tenir à l'écart des violences, il veut se tenir à l'écart des idéologies, des groupes et des clans. Mais c'est difficile de rester à l'écart quand tout le monde veut à tout prix t'embarquer dans la violence.
Dans ton roman Antonio Russo, oui, le fils de Nando fait la rencontre de Lucie, une prostituée. Je ne dévoile rien, c'est dans la quatrième couverture.
Non, absolument, hein. Ça on peut le dire, tout à fait.
Tu aimes, toi, ces personnages féminins hors du commun, un peu volages, libertaires et puis libres et indépendantes.
Oui, c'est vrai que ce sont des personnages pour moi assez romanesques et qui, à travers elles, me permettent de présenter aussi ce qu'est la condition de certaines femmes, pas toutes bien sûr, mais la condition de vie de certaines femmes dans ces époques. Et ce sera vrai des trois romans, d'une certaine manière. Et j'essaye aussi de montrer que finalement, à chaque fois, ces conditions sont à la fois difficiles, et elles le sont, hein, c'est pas de la rigolade, mais en même temps, ce sont aussi des femmes libres, indépendantes, qui choisissent leur destin, et mon héroïne est prostituée certes, mais par choix, assumée d'une certaine manière, et ça nous permet aussi de voir comment fonctionnait la prostitution lorsqu'elle était légale en France à l'époque. Donc voilà, je trouvais intéressant qu'elle ait cette, effectivement cette liberté.
Dans cette sidérurgie, le travail était très physique et masculin.
Bien sûr.
Quelle était la place de la femme ?
C'est une bonne question. D'ailleurs, c'est un roman où, pour une fois, il y a un peu moins de femmes. C'est un peu plus un roman d'hommes, hein, cette histoire. La place de la femme, à l'époque, en réalité, elle est beaucoup dans... Elles tiennent énormément les cantines, elles tiennent les pensions... Elle travaille quand même hein, dans d'autres industries, mais effectivement peu dans la mine et la sidérurgie, en tout cas pas dans les travaux physiques. Elles tiennent beaucoup les pensions, hein, parce que quand tu as des dizaines de milliers de gens qui arrivent, elles s'occupent des lessives, elles facturent. Hein. Elles s'occupent des lessives, elles s'occupent de faire à manger pour les gars, enfin voilà. Elles se sont plutôt occupées des aspects logistiques.
Outre Antonio Russo, le fils de Nando, et Jean Marchal, un journaliste, et Lucie, une prostituée, mène l'enquête sur la mort de Nando. Toujours pas de policiers, comme si la police ne faisait pas bien son travail, comme s'il fallait toujours se débrouiller par soi-même.
C'est vrai que moi j'aime bien, d'une façon générale, et ce sera vrai dans les romans qui vont suivre, j'aime bien suivre les enquêtes de gens qui ne sont pas policiers. Pourquoi ? Parce que ça m'oblige à réfléchir à d'autres sources d'informations, de raisonnement. C'est un peu facile quand c'est policier. T'as accès à toutes les infos, tu as accès à plein de choses, voilà. Quand t'es pas policier, il va falloir faire preuve d'imagination, il va falloir se faufiler, il va falloir jouer des coudes. Et finalement, je veux montrer par là aussi que plein de métiers sont des métiers d'investigation. Il n'y a pas que les policiers, il n'y a pas que les avocats ou les journalistes. Plein de métiers peuvent être des métiers d'investigation. Et je trouve intéressant de se dire, moi, DRH, il m'est arrivé, il m'est arrivé de mener des véritables enquêtes sur des trafics, par exemple, hein, dans les boîtes pour lesquelles je travaille. Je te jure que c'est quasiment... c'était policier, hein, même si je n'étais pas policière.
Un travail d'investigation.
Un vrai travail d'investigation. Par contre, je n'avais pas les moyens. J'avais pas accès aux informations auxquelles ont accès naturellement les pouvoirs publics. Donc, il fallait que je ruse, il fallait que je sois... Voilà. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de réfléchir finalement. Les polars historiques permettent ça aussi. À l'époque où tu n'as pas d'ADN, pas de téléphone, pas de vidéosurveillance, ça t'oblige à réfléchir à d'autres processus de déduction, d'hypothèse, d'observation. Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait. C'est de réfléchir à d'autres méthodes que les méthodes d'investigation traditionnelles.
Dans la sidérurgie, il est souvent question d'accident du travail et de maladies professionnelles. Contrairement à Marc de Fabrique, on ne rencontre pas d'inspecteur du travail. Claude Tardy n'avait pas sa place.
Oh, enfin,
qu'elle soit masculine ou féminine. Hein.
Michel, on me reproche déjà d'avoir beaucoup de personnages dans mes romans. Alors j'évite d'en rajouter quand je peux éviter. J'essaye de n'avoir que des personnages qui sont utiles et nécessaires à l'histoire. Si je commence à en rajouter d'autres, alors là, je perds les gens.
Claude Tardy aurait pu arriver en train du département de l'Ain, par exemple.
Elle aurait pu, mais écoute, elle devait être occupée ailleurs. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein ?
Bien. L'acier, les mines et les hauts fourneaux ont attiré des dizaines de milliers de travailleurs étrangers, italiens, mais aussi polonais.
Oui, par la suite, plutôt, oui.
Donc, ils vivaient dans des conditions déplorables et le code du travail n'était pas le même qu'aujourd'hui. Les animaux étaient mieux traités qu'eux. On n'est pas loin de l'esclavage.
Alors, l'esclavage, je ne sais pas.
Sorte d'esclavage.
Je dirais pas ça. En revanche, on est dans des conditions qui sont extrêmement misérables et qui ressemblent un peu à des bidonvilles. Parce que, tout simplement, le bâti ne permet pas d'absorber 100 000 personnes qui arrivent en l'espace de 10 ans. C'est impossible. Donc, du coup, on y va à coups de baraquements, on occupe les caves, on occupe les greniers, on sort des trucs à la va-vite. Voilà, parce qu'on ne sait pas gérer. Et ça donne naturellement des conditions de vie qui sont effroyables de la part de gens qui, en plus, ont des difficultés avec la langue, qui vont et viennent, donc ils ne vont pas se plaindre beaucoup. Enfin, ils ne vont pas se plaindre beaucoup. Ils vont quand même se révolter. Ils vont quand même se révolter en 1905 aussi. Hein, c'est aussi ce que ça dit. Pas tant, d'ailleurs, pour les questions de conditions de vie, mais par le fait qu'il y a tellement de retenus à l'époque sur les salaires, puisqu'on leur paye tout. On leur paye le gîte, enfin le gîte avec un petit G, hein. Le couvert, les outils, l'économat. Au final, il ne leur reste jamais rien aux ouvriers de cette époque, pas grand-chose. Et c'est contre ça qu'ils vont se révolter.
Nando est un personnage qui ne se mouille pas, tu l'as dit, hein, qui n'est ni du côté des patrons, ni du côté des ouvriers, même s'il fréquente plus ces derniers.
Bien sûr.
Pourquoi tu l'as voulu le plus neutre possible ? Il aurait pu être un peu engagé ?
Oui, il aurait pu être plus engagé, mais non, c'est pas sa nature. Il est un peu lâche, notamment au début de l'histoire, il est un peu lâche. C'est un peu un anti-héros. Il n'est pas très flamboyant, il n'est pas très belliqueux, il essaye d'éviter son père, il essaye d'éviter les problèmes, mais comme j'imagine, des gens normaux. Les héros peuvent aussi être des gens normaux qui essayent d'éviter les problèmes et qui, parfois, sont embringués dans une destinée qui, malgré eux, les emmène à chaque fois dans des drames et dans des problèmes. Et bien que Nando essaye de s'en tenir vraiment à l'écart, est-ce qu'on est capable d'échapper à un destin de violence lorsqu'il vous poursuit ? C'est ça l'histoire de Nando, hein. C'est l'histoire d'un homme poursuivi par son destin et par la violence.
Dans Dur comme fer, il est question des jaunes et des rouges, les pro-patrons et les pro-ouvriers,
oui,
et de ces grèves qui n'ont pas forcément apporté beaucoup aux conditions de vie des ouvriers. Il n'était pas seulement question de guerre des classes.
Non, il était surtout question, et puis il n'était pas d'ailleurs très peu question en réalité de revendications. Hein. Les revendications étaient finalement un peu brouillonnes, pas très claires, rien qu'on n'aurait pas obtenu de toute façon sans faire rien. Ce n'était pas vraiment des grèves de revendications, c'était surtout des mouvements d'humeur et de gens qui à un moment donné veulent montrer qu'ils existent. C'est des gens qui ne veulent pas mourir, c'est des gens qui veulent simplement exister. Et ça m'a beaucoup fait penser, au mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire des choses un peu désordonnées, qui ne sont pas forcément très claires sur ce qu'elles veulent, sur ce qu'elles demandent ou à qui elles le demandent. Simplement, c'est des grèves ou des mouvements d'amour propre. C'est-à-dire qu'on veut quand même montrer sa dignité, on veut quand même montrer qu'on existe, on veut montrer qu'on est vivant, qu'on ne veut pas être maltraité. Voilà, c'est plutôt un mouvement pour la dignité, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas vraiment de la revendication. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant dans ces mouvements de 1905.
Dans Dur comme fer, il n'est pas forcément question de fabrication d'armement.
Non.
La préparation de la guerre, la revanche contre l'Allemagne n'était pas à l'ordre du jour ?
Si, mais ça vient après finalement, dans le processus industriel, ça vient après. Moi je m'en tiens à la fabrication de l'acier qui ensuite va partir dans tout un tas d'usinages pour devenir quelque chose. Mais moi je m'arrête à la fabrication de la matière. Comment on passe du minerai à la fonte, puis de la fonte à l'acier. Cet acier plus léger, plus malléable, avec lequel on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Des choses jolies, hein, des serres, des constructions, des ponts, voilà. Et des choses plus embêtantes, comme effectivement les armes et la guerre, la Première Guerre mondiale arrive.
Dur comme fer clôt la trilogie débutée en 2023 avec Marc de Fabrique. Vu que tu es une grande voyageuse, tu aurais pu voyager dans le temps et en écriture avec d'autres régions dans lesquelles tu n'as pas vécu.
Oui, alors c'est vrai qu'avec ce triptyque, je commence par les régions que je connais. Voilà, donc maintenant je suis bien embêtée, parce que quand même je ne les connais pas toutes. Hein. Donc maintenant je cherche et je découvre.
Et je trouve.
Et je trouve.
Oui.
Et je trouve parce que la France est hyper riche. Je me pose à certains endroits où je sens que quelque chose est intéressant et effectivement je gratte, je fouille, je creuse et je trouve des choses intéressantes. Et je me force finalement d'une certaine manière à découvrir des régions que je ne connaissais absolument pas, ce qui est le cas de la prochaine histoire qui se passera dans le Jura, qui est un endroit que je connais moins. Donc non, il y a plein d'endroits en France qui sont passionnants, même si je reste quand même attachée au grand désarroi de mon mari. Hein. Je reste quand même attachée aux régions dites plus industrieuses. Le nord, l'est, le centre, voilà. Lui, il rêverait que j'écrive des trucs sur Biarritz ou La Rochelle. Ah oui, mais
ça, c'est par rapport à un autre sport, ça.
Voilà, c'est moins inspirant pour moi.
C'est pour ça. Avec Dur comme fer, outre le fait d'en avoir terminé avec une trilogie, tu as l'impression de tourner une page de ton début de carrière de romancière ?
En tout cas, pour l'instant, je suis contente d'avoir écrit ce triptyque de polar historique qui raconte pour moi le 19e et l'histoire industrielle du 19e, depuis les débuts de la mécanisation à la révolution industrielle et à l'industrie lourde juste avant la Première Guerre mondiale. Ça tourne une certaine page, ça tourne finalement la période où j'ai écrit sans être édité, puisque ces trois livres, je les ai écrits sans être édité. Maintenant, j'écris en étant édité. C'est un exercice un peu différent. Un peu plus stressant, je dois dire, parce qu'on est plus attendu, en fait, tout d'un coup. Des gens nous attendent, des gens comparent, des gens... voilà, alors qu'avant, on arrive, il se passe voilà, ce qui se passe, mais finalement, on part de rien. Donc là, il y a des éléments de comparaison, donc forcément, c'est un peu différent. Donc je tourne la page, on va dire, de l'apprentissage de l'écriture et du monde de l'édition, et maintenant, je passe au stade d'après.
Alors, La Constante de la Louve est sortie chez Lizzy Édition en livre audio. Il est lu donc par Marie Bouvet, qui a lu également des autrices et des auteurs de renom, hein, comme Sandrine Collette, Johanna Gustafsson, Virginie Grimaldi ou Marie Gings-Clark. Qu'as-tu pensé de sa lecture ?
Écoute, je l'ai écoutée. et j'ai été impressionnée. Moi, je n'écoute pas beaucoup les livres audio. J'aime lire les mots. Quand il est sorti chez Lizzie, j'étais très, très contente. Et puis, on m'a envoyé le fichier par gentillesse. Et un jour, en préparant ma valise pour un énième salon, je lance le fichier comme ça, que j'entends d'une oreille distraite. Et j'ai été captivée. Franchement, j'ai été captivée. J'ai eu l'impression de redécouvrir cette histoire, alors que quand même, je la connaissais bien. Hein, bon. Et j'ai vraiment eu l'impression de la redécouvrir. Je me suis surprise à l'écouter avec un certain... avec du suspense. J'ai trouvé que même les phrases un peu longues, un peu lourdes ou travaillées, elles passaient avec une légèreté formidable. Donc vraiment, je lui ai écrit pour lui dire d'ailleurs que vraiment, elle m'avait impressionnée. Et où je m'aperçois que c'est un vrai métier. C'est pas une lecture. C'est vraiment une interprétation. C'est une interprétation orale et c'est extrêmement bien fait. Vraiment, c'est très complémentaire et très très différent de ce que j'imaginais.
Des deux autres romans feront l'objet un jour de livres audio.
Dur comme fer, oui, je crois que c'est en cours. Marque de fabrique, je ne sais plus, peut-être pas. Mais Dur comme fer, oui, c'est en cours. En général, c'est vrai que quand on commence à avoir un partenariat sympa avec un éditeur, la plupart du temps, ça dure au moins quelques livres, oui. Donc je suis ravie que ça sorte en audio.
As-tu eu des nouvelles de l'adaptation au cinéma de Marque de fabrique ?
Oui, monsieur. J'ai eu une proposition de scénario. Enfin, proposition. Non pas que je sois décideuse sur le sujet, mais effectivement, on a évoqué le projet de scénario avec le producteur. Donc, on avance.
La constance de la Louve est dure comme fer. Intéresse-t-il le cinéma et la télévision ?
Pas encore. Tout ne peut pas intéresser tout le monde, Michel. Il faut en laisser un peu pour les autres.
Ils étaient bien partis avec le premier. Pourquoi
ils
sont arrêtés ?
Oui, bah écoute.
Pour l'instant,
tu sais. Je me faisais la réflexion l'autre jour qu'on a découvert ou redécouvert la Servante écarlate effectivement dans les années 2010, entre 2010 et 2020, alors que c'est une histoire qui date des années 80 et qui à l'époque est passée un peu, pas inaperçue, faut pas exagérer, mais voilà, qui a pas eu le retentissement qu'elle a eu. Pourtant, il y avait eu un film que j'ai vu il y a pas longtemps avec Aidan Quinn, mais il a fallu attendre 30 ans pour qu'une adaptation le fasse vraiment émerger, quoi.
Bien. Tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicaces. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le quai, épaule contre épaule. Sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Cécile, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Mon dernier coup de cœur littéraire, eh ben, je dirais Michael Mention et son roman 1500 impurs, voilà, que j'ai fini la semaine dernière. Et Michael, que j'ai croisé au salon, au Festival des littératures noires et sociales de Besançon, qui est une histoire assez horrifique de cannibales zombies, mais qui en réalité est une espèce de conte philosophique sur l'intolérance et notre immunité face à l'intolérance. Voilà, je dirais Michael Mention.
Côté proposition de la quinzaine, notons le roman d'Agathe Portail, Fendre l'azur, aux éditions Actes Sud, le thriller de Jérémy Claisse, L'horloger, aux éditions Héloïse d'Ormesson, le polar de Christophe Gava, Héritage, aux éditions Fayard, le roman de Lorraine Fouchet, L'écriture est une île, aux éditions Héloïse d'Ormesson, le livre de Swann Périssé et Guillaume Meurice, Bouffon, l'humour est-il un sport de combat, aux éditions du Faubourg, le roman de Sophie Loubière, Une minute de silence aux éditions Darkside, le polar de Jo Thomas, Brazilian Playboy, aux éditions du Seuil, le roman de Thierry Poyet, Le maillot de l'Arqué, aux éditions Chum, le livre de Vanina Mozziconacci, Apprendre à philosopher en féministe, aux éditions La Dispute, le thriller de Zygmunt Milosevski, Quelqu'un derrière les murs, aux éditions Fleuve Noir, le polar de David Ury, Beirut Forever, aux éditions Liana Lévy, le roman de Cécile Alix, Enragé, aux éditions Salom. Le livre de Rémi Ponge, Se tenir debout, aux éditions La Dispute. Le roman de Pascal Dessin, L'envers de la girafe, aux éditions Payot et Rivage. Le livre de Philippe Jarzaguet, Amitié éternelle, aux éditions J'ai d'encre. Le roman de Romain Puertolas, Ma vie sans moustache, aux éditions Albin Michel. Le thriller d'Olivier Ball, Malavène, aux éditions XO. Le roman de Zoé Brisby, Hollywoodland, aux éditions Albin Michel. Le polar de Marie-Cécile Guillaume, La cathédrale des ombres, aux éditions Michel Lafon.
le trailer de R.J. Ellory, Everglades, aux éditions Sonatine, le livre de Stéphane Beau, Timothée Duverger, Vincent Mourgue, Jérôme Sadier et Jean-Luc Vessy, Un autre foot est possible, aux éditions Le Bord de l'eau, et le roman policier historique d'Éric Foissier, Requiem pour la Dame Blanche, aux éditions Albin Michel.
Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces. Cécile, as-tu des rencontres et séances de dédicaces dans la région proche à annoncer ?
Eh bien, pour le moment, non, tout a été fait sur Oyonnax, sur Bénaud. Donc non, là tout de suite, je n'ai pas de date dans la région.
Sans oublier Césaria.
Absolument.
Notons le samedi 7 juin devant la librairie Zanini à Bourg-en-Bresse, le 14e printemps du cours de Verdun de 10h à 17h30 avec Zoé Brisby, Jacques Expert, Solène Bakowski, Jérémy Claes, Christophe Gava, Lorraine Fouchet et Laurence Perrin. Et le mercredi 11 juin 2025 à la médiathèque Camus à Bourg-en-Bresse, attention, c'est la venue de Michel Bussy à 18h, invité par la librairie Montbarbon. Michel Bussy que tu connais.
Michel Bussy que je connais et que j'aime beaucoup. Voilà. Et dont j'ai lu, alors pas le... Si, j'ai lu le tout dernier.
Les Assassins de l'Aube,
que j'ai lu effectivement en vacances.
Voilà. Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Cécile Baudin, merci d'avoir accepté l'invitation
Michel.
De Radio B et de Roman de Gare. Alors, rappelons que ton troisième roman, Dur comme fer, est paru le 20 mars 2025 aux éditions Presse de la Cité et dans la collection Terre de France. On peut le procurer un peu partout, sans oublier les deux premiers romans.
Absolument, qui sont dispo donc en poche chez 10-18 et Dur comme fer est assez largement diffusé maintenant dans les librairies, oui. Et notamment chez Montbarbon, mais aussi chez Zanini, à la FNAC, partout.
On peut suivre ton actualité sur Internet via ton site Internet, hein, www.cecilebaudin.fr.
Absolument, et en me demandant comme ami aussi sur Facebook ou Instagram, hein, parce que alors maintenant, j'ai fait d'énormes progrès sur les réseaux sociaux.
Je remercie, moi, toute l'équipe de la médiathèque du Centre culturel Aragon à Oyonnax et sa responsable Carole Aidet pour leur gentillesse et leur disponibilité. La prochaine invitée de Roman de Gare, le jeudi 12 juin 2025, sera l'autrice saint-chéfoise Gaëlle Perrin-Guillet. Elle présentera son dernier roman, La Régulation, paru le 7 mai 2024 aux éditions Fleuve. Elle est aussi organisatrice de la nouvelle édition du salon 100% Polar, qui aura lieu les samedis 14 et dimanche 15 juin 2025 à la salle polyvalente de Saint-Chef en Isère, avec comme invité Michel Bussy.
Et il est partout.
Et pas uniquement auprès de la cité dans laquelle tu partages la maison d'édition.
Absolument.
Et quand même.
Absolument.
Cécile, bonne chance pour la suite de tes aventures de romancière.
Eh bien, merci Michel. À l'année prochaine, hein, oui. Avec une nouvelle trilogie.
Oui, on n'a pas le temps d'en parler. On partira dans le Jura en plus.
On partira dans le Jura du côté de Salins-les-Bains.
Bonne séance dédicace. Et puis à bientôt sur Radio B.
À bientôt Michel. Au revoir.
Au revoir.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.